être artiste et créer des œuvres chouettes, c'est inné. Voilà, c'était ça ma croyance limitante. Et aujourd'hui, en fait, je suis persuadée que les meilleurs céramistes, les meilleurs tout, les meilleurs peintres, les meilleurs écrivains, c'est déjà ceux qui ont vraiment beaucoup travaillé au préalable. Il faut avoir des idées, mais des idées tout seul, ça ne suffit pas. Il faut travailler, avoir des bases, avoir des techniques pour après se donner les clés, de les exploiter comme on a envie de le faire. Mais la créativité est le fruit du travail. Vivre de sa passion, je pense qu'il faut quand même se dire qu'il y a des bons et des mauvais côtés. D'accord ? Le hobby, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas y passer autant de temps qu'on veut, mais il n'y a pas la dimension financière qui vient s'intercaler là-dedans.
Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de rêves. Ce podcast a pour ambition de partager le parcours et les clés de personnes ordinaires qui ont décidé de se bâtir une vie extraordinaire. Toutes ces personnes ont au moins un point commun, elles sont passées à l'action. Après s'être mis en déséquilibre, elles ont franchi divers points de bascule pour se rapprocher de la réalisation de leurs rêves, et c'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Je suis Alexis Castro, dirigeant d'un cabinet de conseil, et j'adore stimuler les gens à agir pour être acteurs de leur vie. Je suis déterminé à rendre accessible au plus grand nombre des parcours de vie inspirants, afin que chacun puisse piocher ce qui l'impacte, passe à l'action, et fasse à son tour un pas vers la réalisation de ses rêves les plus profonds.
Bien, bonjour Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être là avec moi aujourd'hui. Comment tu vas ?
Eh ben très bien et ravi Alexis d'être là. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ton podcast.
D'accord.
Par mon beau-frère qui est toulousain.
Ok.
Et toi aussi je pense. Donc
ouais.
C'est pour ça, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui.
Ben génial. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter.
Alors, je vais essayer de me présenter. Donc moi je suis Sarah, je suis la cofondatrice de la plateforme Le Bol Poterie. Je suis céramiste aussi. J'ai commencé comme céramiste et finalement aujourd'hui, cette part du métier de gérer cette plateforme prend pas mal de temps. J'ai 35 ans, j'ai deux enfants, j'aime beaucoup lire, j'aime boire du thé.
Et tu es d'Agen, c'est ça ?
Et je suis d'Agen.
Parfait. Alors, comment c'est venu cette passion pour la céramique à la base ?
Alors, la passion pour la céramique, elle est venue petit à petit. Quand j'étais petite, je faisais pas de céramique. Moi, je touchais la terre. C'était plutôt le jardinage. C'était plutôt, le côté nature qui était présent. Et j'ai cherché longtemps à pratiquer la céramique. L'occasion s'est pas forcément présentée. Peut-être parce que c'était moins à la mode. Je pense que quand j'étais petite, il y avait pas forcément de cours à côté de chez moi. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai été en congé maternité et j'ai pris un peu plus de temps. J'ai pris du temps pour moi et je me suis mis dans la céramique. J'ai aussi fait la folie en fait de m'acheter un tour de potier, un peu comme ça sur un coup de tête, et je m'y suis lancée toute seule. Au tout début. Donc, c'était vraiment la misère.
En autodidacte, quoi.
Ouais, c'était la galère dans mon garage.
Et puis, il n'y avait pas toutes les vidéos YouTube et tout, peut-être aussi.
Il n'y avait pas des vidéos YouTube. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi donné l'envie de créer ce blog. Voilà, toutes les étapes par lesquelles je suis passée, les difficultés à progresser par soi-même et au final, le peu de transmission par les potiers. Parce que c'est quand même un milieu qui est assez fermé, qui s'ouvre de plus en plus, mais qui était assez fermé. Et donc, c'est comme ça, j'ai acheté mon tour de potier. J'ai pris quelques cours, mais sur Agen, il n'y avait pas forcément grand-chose. Et donc, je suis allée me former petit à petit.
Ok. Et alors, c'était quoi les premières étapes pour te former, du coup ?
Alors, donc, la première étape pour me former, c'était de prendre des cours. Sauf que, à côté de chez moi, j'avais pas beaucoup de cours et ceux qui en donnaient, ça collait pas. Donc, après, j'ai essayé d'utiliser, je sais plus ce qu'il y avait, comment ça s'appelait à l'époque, mais en gros, le CPF ou quoi, pour pouvoir, en fait, me former. Mais mon projet a été refusé parce que j'avais trop de diplômes et, en fait, me reformer dans la céramique, c'était pas cohérent par rapport, à leurs critères. Moi, j'avais aussi, j'avais un petit garçon à ce moment-là et bientôt deux. Donc, j'ai pas pu non plus tout laisser tomber pour reprendre une année d'école. Donc, j'ai pris le parti d'aller faire des stages une semaine à droite, à gauche. Je m'imposais 4 stages par an. Et ça m'a permis, en fait, de progresser, moi, dans mon garage avec mon tour et les stages qui me donnaient toutes les bases pour apprendre.
Alors ça, c'est super intéressant. Je reviendrai dessus. Mais à ce moment-là, tu avais quel âge?
Et à ce moment-là, on va dire que j'avais 29 ans à peu près.
Okay.
Mais j'ai un problème avec mon âge parce que je pense que déjà l'an dernier, quand je me présentais sur Instagram, je disais oui, j'ai 32 ans. Et j'ai une amie qui m'a dit mais non, t'as pas du tout 32 ans, t'as bientôt 35 ans. Donc oui, je pense que je devais avoir 28-29 ans. Quoi. Okay. 29 ans. 30, ouais.
Et du coup, avant ça, alors t'as fait des études, t'as eu un des travaux salariés peut-être?
Ouais, la céramique pour moi c'est une reconversion.
Okay.
Avant tout ça, moi j'étais audioprothésiste et j'étais audioprothésiste pour les enfants sourds.
Ok.
C'est un boulot qui m'a beaucoup plu. Mmh. Voilà, m'occuper d'enfants sourds, ça m'a beaucoup plu. Et est venu après un déménagement, est venu après un changement de boîte quoi, qui a fait que je m'y retrouvais plus. Donc dans ce cas-là, j'ai préféré réfléchir à quelque chose qui me parlait plus à ce moment-là.
Ok, donc en fait, ton métier en soi te plaisait, mais c'était l'environnement qui te plaisait plus, c'est ça?
En fait, ce qui me plaisait dans mon métier, c'était de m'occuper d'enfants sourds. Mmh. Et en fait, s'occuper d'enfants sourds, c'est très, très, très particulier. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer ben justement sur Toulouse, à côté des CHU, sur Paris, dans les grandes villes. Mmh. Mais dès qu'on va dans les petites villes comme Agen, en campagne, il n'y a plus en fait ces grands CHU où on peut pratiquer ce travail-là.
Okay.
Donc, je ne pouvais plus pratiquer ce boulot et m'occuper des personnes âgées. Et ben en fait, ça m'a lassé. Voilà, c'est une autre part de mon métier qui ne me plaisait pas.
Je comprends. Oui, ok. Oui, donc en fait, ton type de, entre guillemets, patient a changé. Et du coup, ça te plaisait moins que les enfants.
Oui, c'est ça.
Et donc, ce désir pour la poterie, la céramique, il est venu en parallèle parce que tu cherchais une reconversion ou juste par passion et tu t'es dit après, bah tiens, mon boulot me plaît plus autant qu'avant, donc je veux me reconvertir.
Alors, cette passion par la céramique était là parce que je la pratiquais. Et ça a été en fait le non-sens de mon travail qui m'a poussée à m'y lancer.
Oh, okay.
Plus. Ça a été un peu l'ennui au travail. Mmh. Alors souvent on se plaint du burn-out, moi c'était plutôt l'inverse, c'était le bore-out. Mmh. J'avais vu qu'on s'appelait comme ça.
Ouais.
C'était l'ennui au travail qui m'a poussée en fait à chercher du sens. Et là je me suis dit, vu que j'ai plus de sens dans mon travail, autant le trouver dans autre chose. Et au tout début en fait dans mon parcours, j'avais pas forcément prévu de m'y mettre à temps plein. C'était un complément d'activité.
Un complément d'activité ou une passion?
Ça a été une passion qui s'est transformée ensuite en bloc que j'ai tenu. Ensuite, ça s'est transformé en fait en pièce que j'ai créée. Mais vivre de la céramique, c'est très difficile. Mmh, mmh. Donc, au tout début, ça a été plus envisagé comme un complément d'activité, comme un revenu en complément d'activité. Et le fait que le bol prenne, là, ça m'a poussée en fait à devoir démissionner de ce travail. Ça m'a poussée, ça m'a donné l'opportunité de démissionner, de m'occuper que de ça.
Et c'est ça qui est super important, c'est que beaucoup se disent bah oui, moi je peux pas me reconvertir parce que ils voient toutes les étapes à faire. Voilà, par exemple, bah je peux pas en vivre. Alors qu'en fait, bah le chemin il est plus comme tu le décris. C'est d'abord une passion, on fait, on apprend, on se dit bah tiens, ça pourrait être un complément de revenu. Et d'un moment, quand il y a quelque chose qui prend, là, on peut faire la bascule, mais ça demande du courage.
C'est ça, en fait. Je pense que quelquefois, il faut se laisser l'opportunité de ce deuxième job. C'est souvent quelque chose qui est mal vu, notamment dans le secteur créatif. Se dire, ben oui, le fait d'avoir un boulot alimentaire à côté. Mais pour moi, c'est quand même important. Ça permet déjà de tester, de voir si notre travail nous plaît réellement, si la céramique va nous plaire, parce qu'il y a quand même des très bons côtés, il y a des côtés beaucoup plus difficiles. Ça permet aussi de s'assurer des arrières, d'avoir déjà des commandes, d'avoir des relations avant de se lancer dans l'inconnu. Et puis, franchir le cap de changer de vie, d'oser basculer dans une nouvelle vie. Vraiment dans l'inconnu, ça fait peur, Et puis, financièrement, il y avait quand même beaucoup de personnes qui ont des crédits à assurer. Moi, j'ai mes enfants à nourrir. Je ne pouvais pas me permettre de tout lâcher comme ça du jour au lendemain.
Bien sûr. Alors, tu viens de dire que c'était mal vu.
Dans la céramique, ouais, d'avoir un... ouais. Ben, souvent pour les créatifs, pour les personnes créatives, on s'imagine qu'on va vivre d'eau fraîche, de créativité. Mmh. Et le fait, en fait, d'assumer, il y a peu de céramistes qui vont l'assumer de prime abord, le fait d'avoir un boulot alimentaire à côté.
D'accord. Ah oui, j'aurais pas pensé. Alors, on revient au moment où, du coup, bah, t'es salarié et tu vas faire un stage d'une semaine 4 fois par an, c'est ça? Donc là, t'avais une vie de famille, donc c'est quand même une grosse étape, quoi.
Ah oui, mais quand j'ai acheté mon tour et que je m'y suis mis, au final, ça m'a tellement plu que j'y étais tout le temps. Alors, j'avais mes enfants qui étaient petits, donc ça veut dire que j'y allais le soir, ça veut dire que je travaillais souvent décalé. Ça a été un compromis. Moi, les films, j'en regarde plus. Voilà, ça a été vraiment une part de ma vie. Et faire ces stages, ça m'a, ça s'est imposé comme ça. Et même, ça m'a fait du bien. Ça me permettait aussi de me retrouver et de me retrouver moi sans mes enfants.
Et donc là, après, quel est le passage? Donc, tu te professionnalises, si on peut dire. En tout cas, t'apprends les techniques et la manière de bien faire, on va dire. Et donc, à partir de là, quelles sont les étapes suivantes?
Donc, pendant un an ou 2 ans, j'ai fait ça, j'ai fait plusieurs stages par an. Et est venu le jour, en fait, où ces stages ne m'apportaient plus. Et donc, dans ce cas-là, je me suis dit, qu'est-ce qui va pouvoir t'apporter? Comment est-ce que tu vas pouvoir progresser? Et là, j'ai suivi une formation pour passer le CAP. Voilà, c'est une reconnaissance, c'est la reconnaissance, le diplôme qu'il peut y avoir au niveau des céramistes. Et j'ai trouvé une formation comme ça sur Paris qui me permettait en fait d'aller 3 jours par mois sur Paris et de travailler le reste du temps chez moi. Et j'ai trouvé ça pendant 9 mois de septembre à mai parce que le diplôme après est en juin. Et j'ai trouvé ça super. Ça m'a permis d'alterner la formation en présentiel pendant quelques jours et de continuer à travailler chez moi par la suite.
Donc là, tu avais quitté ton travail salarié ?
Non, je travaillais toujours à côté, mais je m'étais mis, j'avais pris, comment ça s'appelle ça ? Un congé, j'ai cumulé plusieurs choses. J'ai cumulé un congé parental et ensuite, j'ai cumulé un congé pour création d'entreprise qui me permettait en fait de travailler que 2 jours par semaine.
D'accord, ah, j'ignorais ça. Comment ça fonctionne? Ouais.
En fait, le congé parental, ça, on a le droit jusqu'aux 3 ans de notre enfant. Et ensuite, le congé pour création d'entreprise, tout le monde peut le prendre. Il faut en fait définir au tout début combien de jours par semaine on veut travailler. Donc là, si on peut définir 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est plutôt un nombre d'heures. C'est valable 1 an et on peut le reconduire après une deuxième année.
D'accord.
Et l'employeur est obligé de l'accepter.
D'accord. Mais du coup, ton revenu est bien diminué.
Et mon revenu est bien diminué à côté.
Donc, ce CAP?
Donc, CAP. Donc, pendant 1 an, CAP. Et ensuite, franchement, au niveau du tournage, j'avais fait le tour.
Parce que le CAP, c'était pour apprendre de la technique ou pour la légitimité? Quelles étaient les raisons?
Alors, le CAP, il y avait 2 raisons, c'est-à-dire qu'il y avait la légitimité aussi, parce que vu que je créais le bol, il fallait quand même que je sois légitime, que je sois droite dans mes bottes, quoi, que je puisse valoriser le métier et qu'on n'ait rien à dire sur moi non plus, parce que proposer des cours en ligne par la suite, c'est pas quelque chose qui est courant, donc il faut avoir fait le parcours classique, quoi. Je préférais avoir fait le parcours classique. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Après, j'ai été formée auprès de Grégoire Scalabre, qui est un super céramiste là, qui a gagné un prix, le prix Bettencourt là cette année, et qui m'a vraiment appris en fait à travailler la forme, la forme des objets, à avoir en fait mon style, quoi, réfléchir vraiment sur la forme. C'est plutôt ça, on va dire, que la formation m'a appris. Après, ça m'a perfectionné, c'est sûr. Ça m'a permis, j'ai vu d'autres techniques, mais c'est vraiment le travail sur la forme qui m'a marqué.
Donc là, tu avais déjà l'idée du bol.
Là, le bol, ouais, j'avais le blog toujours en parallèle.
Ok. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as commencé en autodidacte, où tu as fait tes stages et où tu as commencé le blog, combien de temps il s'est passé? Quelles étaient les différentes phases?
Combien de temps est-ce qu'il s'est passé? Je dirais peut-être 5 ans. 5 ans, peut-être. Allez, on va dire à peu près 5 ans.
D'accord.
Donc, les différentes phases, ça a été déjà de commencer par le blog tout simplement.
Ouais.
Ensuite, ça a été...
Pour partager ta passion?
Ouais, pour partager ma passion. Et puis parce que moi, j'ai eu quand même beaucoup de difficultés à trouver des informations sur Internet. Donc, ça a été la première raison à créer ce blog.
Ouais, donc tu as vu qu'il manquait quelque chose et tu as voulu le faire pour partager. Mais est-ce que tu avais déjà cette ambition d'objectif de revenu aussi ou pas forcément?
Non, moi après, j'avais l'ambition de donner des cours chez moi. Mais j'avais pas forcément après l'idée de la plateforme du bol. Au début, j'étais donc sur le blog, sur l'idée de donner des cours. Et donc justement, en parallèle, vu que je voulais donner des cours, je me suis dit, je vais investir dans quelques tours. Et vu que pour l'instant, je suis pas encore prête, je vais commencer à les louer pour amortir l'investissement des tours.
C'est combien un tour?
Un tour, c'est environ 1000 euros.
D'accord.
1000, 1200 euros. Donc j'avais acheté 5 tours. Et au tout début, j'ai commencé à les louer sur Le Bon Coin, à côté. Et ça a bien pris. Voilà, j'ai loué là dans le sud-ouest. Et donc ça a été donc première étape le blog, deuxième étape l'achat des tours pour les louer. Troisième étape, j'ai commencé à donner des cours chez moi. Quatrième étape, ça a été plus pendant le confinement, j'ai commencé à proposer une formation gratuite sur la plateforme qui donnait les bases de la poterie. Voilà, qui c'était vraiment un peu comme une formation gratuite comme sous forme de e-book peut-être, mais plus poussée, qui donnait toutes les clés en fait pour se lancer dans la céramique. Cinquième étape, j'ai mis en place l'aventure poterie. Voilà, l'aventure poterie qui est en fait un condensé de location de matériel et d'accompagnement de formation.
Ok.
Et ensuite, dernière étape, ça a été d'intégrer d'autres formations que ça a été de proposer ma formation de tournage et de proposer d'autres les formations d'autres céramistes sur la plateforme du bol.
Ok. Donc, une mise en relation aussi et avec des personnes que tu connaissais, que tu avais rencontrées au CAP ou ailleurs, ou que tu es allé chercher?
Et ça a été des rencontres, mais des rencontres un peu comme tout. Limite un peu comme toi tu proposes un blog et en fait moi sur le bol je propose des lives YouTube donc sur différents points autour de la céramique et ça a été c'est des personnes que j'ai rencontrées lors de ces lives.
D'accord. Oui, donc le réseau encore une fois qu'on se crée en bougeant, en étant actif, et après ça vient quoi.
Voilà, c'est franchement c'est ça en fait pour trouver des invités lors de ces lives, j'ai quand même pas mal regardé le parcours des céramistes. Et c'est, voilà, vu que ces céramistes me parlaient, vu que ça s'est bien passé, c'est pour ça qu'on leur a proposé par la suite de faire ces formations.
Ok, super. Donc, à ce stade, tu étais toujours en congé, création d'entreprise?
À ce stade, j'étais toujours en congé de création d'entreprise.
Et du coup, comment tu ressentais cette double activité?
Je me détachais de plus en plus de mon travail d'audioprothésiste. J'écoutais de moins en moins les personnes sur place. Et puis, en fait, je faisais un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que je réponde à ces mails, que je commande ce matériel, que je pense à faire ci, que j'oublie pas les cours le soir, que j'oublie pas mes enfants, l'anniversaire des enfants. Donc, il est venu après un temps il a fallu que je lâche le boulot pour le bien-être, pour mon bien-être et aussi pour pas dégrader le travail que j'y proposais, quoi.
Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, ont, avant de faire quoi que ce soit, peur de ce moment-là et du coup disent « Non, mais moi, je peux pas faire deux choses en même temps. » C'est soit tout l'un, soit tout l'autre.
Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais qu'il faut être prêt à travailler.
Oui.
Voilà, qu'il faut être quand même persévérant. Ça, c'est quand même une... Ça, je dirais que c'est une de mes grandes qualités d'être persévérante et d'être prêt à travailler. Mmh. Parce qu'il faut se dire que si on cumule des activités, ben, ça veut dire que son temps de loisir le soir sera quand même, ça sera un sacrifice, mais le soir, il faudra travailler. Je pense que c'est tout à fait possible si on a la motivation, si on aime ce qu'on, si on croit vraiment en notre futur projet et si on a vraiment envie que ça se passe. Parce que dans la vie, on n'a jamais, je pense qu'on n'a jamais tout qui est servi sur un plateau. Il faut aussi se battre pour donner du sens à sa vie. Donc c'est tout à fait possible, mais il faut s'en donner les moyens.
Ouais, donc ça, je comprends complètement. Bah, moi aussi, j'ai commencé en double activité au départ. Hein, et donc, tous les sacrifices dont tu parles, je comprends. Et ça les vaut largement, en tout cas dans mon cas. J'espère que pour toi aussi.
Oui.
Mais là, je voulais plus parler, tu vois, du cas des gens qui se disent justement qu'eux ne veulent pas faire les deux en même temps, qui savent pas ou qui peuvent pas. Mais qui, du coup, voient le mur déjà rempli et vont certainement ne jamais passer à l'action parce que la marche est trop grande. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et ben dans ce cas-là, ça serait, je pense que j'avais écouté, je sais plus où j'ai entendu ça, mais c'est la théorie des petits pas. Mmh. Voilà, j'ai entendu, et il n'a pas, j'avais entendu ça l'autre jour, et je trouve que c'est tout à fait vrai. En fait, ce y aller petit à petit. Mmh. Au final, en fait, c'est clair qu'avant de monter, en fait, par exemple, le bol, ça c'est quand même beaucoup de travail si je regarde.
Ouais.
Mais monter un blog où on partage quelque chose, c'est moins de travail. Donc ouais. Déjà commencer en fait par quelque chose qui est plus petit, voilà, y aller au fur et à mesure. S'imaginer comme céramiste professionnel, c'est une gros challenge, mais déjà, commencer à faire ses pièces, proposer des pièces assez proches pour Noël.
Ouais.
Voilà, envisager les choses petit à petit, et en fait, c'est en y allant petit à petit, et donc dans la persévérance, qu'après, on arrivera à faire quelque chose de plus grand.
Clairement. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Donc là, tu lances le bol. Tu fais des lives YouTube, ça commence à prendre de l'ampleur. Comment tu te fais connaître? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que ça va pas assez vite? Comment tu fais?
Mais limite, on aimerait toujours que ça soit que ça aille plus vite.
Ah, ça va jamais assez
toujours,
vite. On est
voilà, c'est ça. On aimerait toujours avoir plus de visibilité et tout. Moi, franchement, les premiers lives YouTube qu'on a fait là, ça fait 2 ans. J'ai une amie qui m'a envoyé un message hier soir pour me dire que ça faisait 2 ans qu'on avait commencé ces lives. Les premiers lives YouTube, j'étais tellement mal à l'aise, mais oui, après, c'est une niche, la poterie, c'est une niche. Donc, il n'y a pas énormément, en fait, de vues, mais bon, ça roule quand même. Mais ça a permis de fédérer, en fait, vraiment une communauté.
C'est ce que j'allais dire, parce que en soi, c'est pas tant les vues qui sont importantes, mais c'est la conversion. Si t'as 100 personnes qui regardent, mais 100 personnes qui achètent, enfin allez, il y aura jamais 100 sur 100, mais imaginons 500 personnes qui regardent et 100 qui achètent, c'est mieux que 1000 et 10, quoi. Enfin...
Oui, mais sache que je suis très mauvaise pour vendre mes produits, donc je ne fais jamais de publicité dans les lives.
Ok, ouais. Oui, donc c'est vraiment des lives où tu donnes, c'est pas un cheval de Troie où à la fin on dit, bah tiens, voilà ma super offre et c'est jusqu'à ce soir.
Non, je fais jamais ça. Il faut justement me pousser à le faire un peu plus. Je le fais un peu de manière détournée, je mets ce qu'on fait, voilà, ce qu'on prépare dans le mois et tout ça, mais j'ai beaucoup de mal à vendre mes produits. C'est un autre travail qu'il va falloir que je fasse. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir un super réseau, ça m'a permis, moi, de m'enrichir énormément parce que les sujets, en fait, qu'on traite, c'est quand même des sujets assez pointus. Donc, moi, il faut que je les travaille en avance. J'apprends énormément. C'est des discussions à 3 ou 4. On est 3, il y a 3 céramistes plus moi, donc il y a des points de vue de chacun. Ça m'a énormément apporté. Après, oui, on aimerait toujours que ça explose, qu'on soit relayé par telle ou telle personne. Mais franchement, non, je suis tout à fait contente de l'évolution du pôle.
C'est super important ce que tu dis dans le sens où ça te pousse à apprendre et tu en tires beaucoup, ça t'enrichit. C'est qu'à la base, je pense qu'il faut le faire pour ça, pas forcément pour le résultat. Et tu vois, c'est comme moi avec les podcasts, il n'y a pas du tout d'aspect financier derrière. Moi, ça m'enrichit énormément des rencontres et des échanges avec les personnes. Et en fait, juste ça, c'est extraordinaire.
Donc, oui, Oui, et puis je pense que si on le fait que pour le résultat, en fait, on va s'essouffler. Là, j'ai une fille là qui tient un podcast là qui justement sur la céramique, mais qui manque un peu de qui manque de visibilité, qui a pas les vues voulues et qui s'essouffle après parce que tout ça prend du temps et même si voilà, il faut vraiment que ça plaise parce qu'il va y avoir du temps en fait entre le moment où ça commence à se faire connaître et le moment où on lance le projet.
Complètement. De là, alors, quelle est la suite ? On est il y a 2 ans, en gros, c'est ça ? Parce que au moment où tu commences les lives YouTube.
Donc, je commence les lives YouTube. Donc, la suite, après, c'est qu'il a fallu que je fasse la première formation, que je filme la première formation, que j'explique. Donc, ça, c'est déjà essayer de mettre en place des formations. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps de préparation des formes, de films, d'explication, parce que la poterie, c'est un art manuel. Pour arriver à l'expliquer, il faut en fait parler sur les vidéos qui sont faites, recaler sa voix moment par moment, faire des ralentis, des accélérés. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Fini la première formation, je me suis dit jamais plus je referai de formation.
Donc là, juste pour préciser, tu fais une formation en physique avec des personnes chez toi et tu la filmes en même temps? Non.
Okay. Non, pas du tout. En fait, je fais des formations en fait où c'est des formations en ligne. Oui. Donc c'est des formations en ligne où en fait moi, en fait, je fais les formes. J'ai 2 caméras qui sont placées et en fait je détaille tous les gestes pour que les gens après chez eux puissent refaire les mêmes gestes.
Okay.
Franchement, vu que c'est un art qui est vraiment manuel, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « Ah, mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut apprendre sur Internet la poterie. » Je comprends tout à fait. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment bien, bien, bien expliquer les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, en fait, de 2 caméras, d'avoir de l'expliquer en voix off, parce que si je l'explique comme en même temps que je tourne, les gens, c'est trop rapide, les gens, ils comprendront rien. Donc, il faut faire des allers-retours. Il faut donc ça prend beaucoup de temps.
Voilà, donc en plus, tu as appris le montage vidéo en parallèle de la poterie.
Alors ça, j'ai beaucoup de chance. Ça, c'est Julien qui se charge du montage vidéo. Et heureusement, parce que moi, je suis nulle sur ça. Je sais me débrouiller, mais tu vois là, j'ai pas su me connecter. Voilà, je suis pas très calée là-dessus. Donc non, j'ai pas géré ça. Et heureusement.
Et alors cette idée de formation en ligne, comment elle t'est venue ?
Comment elle m'est venue ? Mais au final, ça a été la suite logique et ça a été en fait le premier. Ça a été le support pour proposer l'aventure poterie. La formation, en fait, au début, j'étais partie que sur le fait de proposer l'aventure poterie, donc c'est-à-dire la location d'un tour, la location d'un four, et un accompagnement pour apprendre la poterie chez soi. Et à son rythme, parce que c'était le problème moi que j'avais rencontré sur Agen, c'est-à-dire que j'avais pas de cours de poterie à proximité. Et ayant des enfants, franchement, travailler le soir, c'était le mieux que je puisse faire. Donc j'étais partie là-dessus, mais pour proposer cette offre, il fallait bien que les gens aient un support. Et donc ça a été l'origine de la formation. Et au tout début, je pensais pas la vendre à côté. Je me suis dit, d'ailleurs, la première formation, elle est pensée vraiment pour l'aventure poterie, c'est-à-dire qu'il y a une partie de tournage et il y a une partie après, ça va jusqu'à la cuisson, ça va jusqu'au décor. En fait, c'était vraiment pensé pour ce programme de formation. Et en fait, une fois que ça a été tourné, on s'est dit, quand même, on peut le proposer à côté, on verra s'il y a des gens qui le prennent, quoi.
Bien sûr.
Ça a été pensé sur ça. Et donc, ça a été première chose. Et ensuite, après quand même, je pense un an et demi après, là, il a quand même fallu en fait que je fasse la suite, le tournage avancé, pour 2 raisons, parce qu'on avait décidé justement pour l'aventure poterie d'augmenter la durée, parce que tous les 6 mois, envoyer le matériel, réceptionner le matériel, en fait, ça revient vite. Donc on s'est dit, en fait, on va passer sur 10 mois, de septembre à juin, et pour avoir plus de contenu pendant ces 10 mois, on a proposé la formation niveau 2, quoi, tournage niveau 2. Donc ça a été ces deux formations. Mais à chaque fois beaucoup de travail, et à chaque fois que j'en fais une, je me dis ben voilà, c'est la dernière. mais c'est jamais fini, et là j'en prépare une autre sur les mailles. Mais bon.
Oui, ben là je vois effectivement l'aventure poterie, c'est hyper complet, hein. Là tu fais vraiment le kit total avec la livraison du tour, du four, le kit, la formation,
ah, ils ont
l'accompagnement
tout.
En visio.
Non, franchement, ils ont tout. Ouais. Ils ont tout. Non, c'est un programme qui marche très bien. Là, il y en a un prochain, là, en janvier, qui est, c'est déjà complet. Et après, ça sera pour septembre prochain.
Donc, tu lances des promotions, on peut dire?
Ouais.
Est-ce qu'il y a une date où chaque personne peut rentrer quand il veut?
Non, c'est des groupes de personnes. C'est des groupes comme ça, en fait, tout le monde commence ensemble. Les visios, elles sont progressives. Au tout début, voilà, j'explique la base et au fur et à mesure des mois, ça se complexifie. Et en fait, c'est même un groupe, il y a même un groupe sur Discord, donc ça permet en fait qu'il y ait une émulation de groupe. Il y a des personnes qui aimeront partager d'autres noms, mais ça permet que chaque personne se soutienne. Et si en fait les gens rentraient un par un, déjà pour moi, ce serait plus difficile à suivre et il n'y aurait pas ce groupe quoi qui serait créé.
Et cette formation, elle était déjà aussi complète depuis le début ou tu l'as peaufinée petit à petit?
Et cette formation, au tout début, il n'y avait que la formation tournage et décor, donc c'était un peu plus simple. Et en fait, ce que je peaufine au fur et à mesure, c'est plutôt les visios de groupe. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, les visios de groupe, je disais, bon, quels sont vos problèmes? Voilà, est-ce que, voilà, on va discuter, quel problème vous avez rencontré ce mois-ci? Et en fait, avec le retour des personnes, à chaque fin de session, on fait passer un questionnaire. Donc, on m'avait remonté qu'il faudrait mieux cadrer les thèmes des différentes visios. Parce qu'il y a certaines personnes qui feront pas le retour, qui seront plus timides. Et donc, il vaut mieux que je cadre chaque thème. Donc, après, j'ai cadré les thèmes. Et après, au fur et à mesure, j'essaie de peaufiner l'accompagnement.
Bien sûr. Non, parce que pour quelqu'un qui a une idée dans un domaine autre, qui se dit, bah, tiens, je vois le site de Sarah, il est vraiment trop bien fait, c'est hyper complet, je suis pas capable de faire ça. Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. La première version, elle est pas telle qu'on le voit quand ça aboutit.
Ah non, mais en plus, le site, il est super beau, hein. Il est super beau, le site.
Ah oui.
Le site, il vient tout juste d'être refait.
Ouais.
Et avant, c'était pas la même chose.
Ouais.
Avant, c'était pas du tout le même, non. Non, c'était pas la même. Ouais, franchement, non. On a commencé. Alors, j'ai la chance d'avoir eu un copain qui est développeur. Donc, le premier site, c'est lui qui nous l'a fait. Et là justement, là c'est mon beau-frère là sur Toulouse qui a programmé le nouveau site et on l'a fait en collaboration avec une super graphiste qui est très gentille, qui travaille très très bien.
Parfait, très bien.
Mais non, c'était pas comme ça. Il y a quelques mois, c'était pas non plus comme ça.
Et je vois que tu fais des immersions aussi.
Et on fait aussi des stages. Ça, c'est des choses qu'on développe petit à petit. Vu qu'il y a le côté internet, faire aussi un peu en présentiel, moi ça me fait plaisir de voir les gens. Et donc on propose en fait des stages dans des lieux assez chouettes, donc toujours dans le sud-ouest, où on allie tournage, on allie cadre agréable, on allie nourriture végétarienne. Et c'est souvent des week-ends très agréables.
Ouais, et très ressourçant pour les personnes qui participent.
Ouais, et puis il y a une bonne ambiance. Moi, je propose les cours, c'est Laetitia qui anime parce qu'elle a plus la pêche que moi, quoi. Elle aime ça, elle aime organiser. Moi, je suis peut-être moins sociable qu'elle. et non, ça se passe très bien.
Super. Et alors, quel rôle a joué, on va dire, le regard des autres au début quand on te dit non, mais on peut pas apprendre la poterie en ligne, etc. Qu'est-ce qui te fait continuer et aller au bout, même si c'est beaucoup de travail, et y croire?
Déjà, c'est pour ça que j'avais besoin, qu'il fallait que j'aie mon CAP. Voilà, je savais en fait qu'il y aurait des critiques. Et puis en fait, franchement, en fait, j'ai montré mon travail déjà avant de sortir les formations. Je les ai montrés à des céramistes qui étaient renommés. Qui ont validé mon travail, qui m'ont dit que c'était très bien et qu'ils n'avaient pas forcément vu de formation mieux que ça à ce sujet, quoi. Donc là, j'ai été rassurée. Ça a été hyper important pour moi d'avoir cette validation préalable. Et puis après, et vu qu'en fait, voilà, franchement, on avait bien travaillé, j'étais quand même content de moi. Et un autre point qui a été important, c'est le retour des premières aventurières côtières. Voilà, elles ont été satisfaites. À partir de là, franchement, eh ben, je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche. Voilà, je pense que dans la vie, on aura des critiques, surtout à partir du moment où on quitte, où on quitte les lignes déjà établies. On aura des critiques. Dès qu'on sort du cadre, il y aura des critiques parce que ça plaira pas à tout le monde. Parce que on fait quelque chose un peu original et qu'on fait bouger les codes et les lignes du métier. Mais franchement, je m'en fiche et je suis sur les réseaux sociaux pour promouvoir le travail du bol, mais moi-même, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'atteint pas et des fois limite ça m'énerve. Donc, des fois, je réponds. Des fois, je suis pas très sympa quand je réponds. Mais tant pis. Et aujourd'hui, en fait, maintenant, il y a des grands groupes. Alors, c'est pas Sarah et le bol et ces petits moyens qui ont fait ça. Maintenant, c'est des grands groupes qui développent ça de manière plus professionnelle. Donc, ça veut dire, en fait, que l'idée qu'on a eue, je pense que c'est une bonne idée. C'est une idée qui aura peut-être de l'avenir, qui aura plus de concurrence. Mais je suis fière du travail qui est proposé. Si le travail proposé n'était pas qualitatif, si on avait des demandes de remboursement régulières parce que dans les formations qu'on propose, eh ben là ce serait autre chose et là je me remettrais en question.
Qu'est-ce qui t'a donné cette confiance en toi ?
J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi sur beaucoup de choses. Mais comme je te dis, là, en fait, là, c'est plutôt c'est que vraiment, j'ai travaillé là-dessus. Là, si tu savais le nombre d'heures que j'ai passé, le nombre d'heures, là, que je passe à préparer la formation Email, pour moi, c'est vraiment du travail qualitatif j'ai lu plein de livres, j'ai regardé tout ce qui se faisait aux États-Unis, Et je suis fière du travail qu'on a fourni. C'est plutôt pour ça.
Oui, donc en fait, tu as confiance dans le travail que tu as pu mettre. On est tout ce que tu as donné.
Oui, c'est ça. Après, tu vois, il y a toujours des aléas, c'est-à-dire que il y a toujours des choses qui ne pourront pas forcément plaire à quelqu'un. Apprendre chez soi, c'est toujours difficile. Apprendre la poterie chez soi, l'aventure poterie, si on se dégage pas le temps voulu, ça le fera pas. Mais on va dire que là, c'est plutôt de la faute de chacun, quoi. C'est comme moi, des fois, j'ai acheté une formation d'astrologie et au final, j'ai pas le temps de le faire. Et c'est ma faute, quoi. Voilà, c'est comme ça.
Moi, je connais bien ça aussi. Hein. Mais d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que est-ce que toi, tu as une idée de ce ratio-là, des gens qui l'achètent mais qui le suivent pas jusqu'au bout, pas vraiment, pas bien?
Dans l'aventure poterie, oui, ça, je peux le voir. Dans les formations achetées en ligne, ça, je le vois pas. Parce que tu vois, il faudrait que les gens mettent validé pour chaque étape. On n'oblige pas à mettre validé, donc ça, non. Et ça, ce serait aussi une évolution qu'il faudrait que je fasse, que j'analyse tous les chiffres, mais j'ai pas eu le temps de le faire.
Tu utilises quelle plateforme en ligne ?
J'utilise la plateforme en ligne, c'est la nôtre.
Ok, ah ouais, d'accord.
Ouais, c'est la nôtre, c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui manquent, tu vois, on n'a pas d'outils d'analyse, mais c'est notre plateforme.
Ok, super. Et alors, au moment où, si on revient un peu sur le lancement de la formation, de l'aventure poterie, est-ce que ça prend dès le début ? Qu'est-ce que tu mets en place ?
Ah, ça a pris super vite. Les premières aventurières, bah, d'ailleurs, tu vois, c'était un petit groupe et j'ai toujours plaisir à les recevoir. Tu vois, j'ai quand même souvent des nouvelles d'elles. J'avais 10 places au tout début, c'est parti en une semaine, tu vois. C'est parti, ouais. L'aventure poterie, ça a vraiment super, super bien pris et ça prend super bien à chaque fois.
Et alors, ça a Donc, c'est parti en une semaine, mais avant, enfin, c'était des personnes que tu as acquis comment? Comment elles t'ont connu?
Mais je pense par le blog.
Par le blog. Donc, elles te suivaient. Et après, quand t'as lancé, c'était quoi, un email?
C'était un email. Ouais. Tout, en fait, nous, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'email.
Ok. Vraiment, donc, t'as une newsletter ou quelque chose?
On a une newsletter. Alors, avant, au tout début, j'en faisais peut-être une fois par mois. Et là, depuis cette année, j'en fais une depuis septembre, j'en fais une fois par semaine, mais c'est parce qu'on a pris Léa en alternance qui m'aide là-dessus. Sinon, en fait, j'y arriverais pas. Mais oui, je pense que c'est par le blog.
Super. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Et ben là, franchement, très contente. Très contente de ça. Voilà, ouais, franchement, assez. Alors, je suis jamais fière de moi, mais comme je dis, voilà, je suis contente que ça se passe. Et après, ben, c'est la première session, donc avec le doute que ça se passe bien, avec un peu de peur. Voilà, contente. Contente.
Génial. Donc après, ben, du coup, tu suis ces personnes-là. Visiblement, ça se passe bien.
Ouais, je suis ces personnes-là, ça se passe bien. Et là, est-ce que c'est au tout début ou quoi? Ben, on a relancé un autre groupe, comme ça, après, pour 6 mois. Et on faisait, au tout début, 4 sessions par an de 10, 12 personnes. Là, ça faisait quand même beaucoup. Et puis, en plus, 10, 12 personnes, au final, les personnes qui viennent en visio directement, tu vois, qui font les visios de groupe le soir même, il y en a généralement la moitié qui viennent et les autres qui regardent en replay. Donc, tu vois, il suffit qu'il y en ait qui soit malade ou quoi, ça fait quand même peu de personnes.
Ouais.
Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a agrandi les groupes par la suite et que là, on fait 2 groupes par an de 25 personnes à peu près.
Ok, génial. Donc là, aujourd'hui, il y a le cœur, c'est l'aventure poterie, si je comprends bien. En parallèle, tu as des formations qui sont dans l'aventure poterie que tu vends indépendamment, mais sans la location. Tu vends la location aussi à part, non?
Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de cœur. On va dire que le cœur, pour moi, c'est les formations. Aujourd'hui, il y a mes formations, les formations d'autres céramistes, de 3 autres céramistes qui viennent. Il y a l'aventure poterie, ça, c'est un des programmes qui marche très bien et là, qui est un peu indépendant de ces formations. Il y a la location de matériel, voilà, qui permet... ça aussi, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus développé et qui donne aussi un boulot à quelqu'un d'autre. On emploie une team qui s'occupe du matériel.
Okay.
Et après, il y a le blog à côté qui, lui, c'est vraiment... Il n'y a pas de revenu du tout là-dessus. C'est un partage d'informations.
Ok. Et pour la location, tu travailles le référencement sur Internet ou non? Ça vient tout seul? C'est du bouche à oreille?
Et pour la location, c'est aussi la mailing list. Et vu qu'on est les seuls à proposer ça, que ce soit en France, en Belgique, on est les seuls. Donc on a le monopole là-dessus.
Ouais. Donc génial.
Donc sur ça, ça marche facilement.
Top. Et alors, les immersions, combien t'en fais par an?
Les immersions, j'en fais... là, ça a commencé tout juste. J'en ai fait 2. Et là, tu vois, là, j'espère cette année en faire 3.
Ok.
J'aimerais bien en proposer peut-être 2 week-ends et une semaine.
Ok, une semaine entière.
Ouais. Ouais, je trouve que c'est pas mal aussi. Ça permet de laisser plus de temps pour bien apprendre et bien s'imprégner du lieu.
Ouais. Ça ressemble un peu au stage que tu faisais au départ, alors, pour apprendre ou pas du tout?
Et en fait, les stages que je faisais pour apprendre, le problème, c'est seulement que, tu vois, tu fais ton stage, après, il faut que tu trouves ton logement à côté. Et c'est pas forcément des cadres très agréables. Tu vois, des fois, t'es sur Paris, finalement, tu te trouves un petit logement à côté. Ouais. L'intérêt, c'est que t'as ton logement, t'as la nourriture, t'as la formation, tu te préoccupes de rien. C'est ça qui... c'est de faire... d'avoir un petit mix entre formation et temps pour soi. Parce que dans la vie de tous les jours, je sais pas toi si t'arrives à prendre beaucoup de temps pour toi ou quoi, mais souvent, moi, je trouve qu'on s'oublie. Et tu vois, si on peut allier le fait d'aller apprendre et le fait de souffler un petit peu, là, c'est le paradis, quoi. Moi, si j'avais pu trouver ça quand j'étais jeune maman, c'était le top, quoi.
Puis, il y a peut-être une dimension partage aussi.
Et il y a aussi une dimension partage, c'est-à-dire qu'on passe quand même, là, on passe un week-end tout entier ensemble. Mmh. Voilà, ça permet d'échanger et oui, ça permet d'échanger, quoi.
Du coup, c'est un public qui est majoritairement féminin?
Ah, carrément. Là, dans l'aventure poterie, pour l'instant, j'ai eu un homme. Là, il y a un deuxième qui sera là cette session prochaine, mais et dans les stages, il n'y a jamais eu d'homme.
D'accord, non, d'accord. Non. Ouais. Ok. Qu'est-ce que serait la croyance limitante que tu avais il y a quelques années, au moment où tu te lances vraiment, tu te dis, allez, j'achète mon tour et on verra, et qu'aujourd'hui, tu as fait sauter?
La croyance limitante que j'avais... Alors, ouais, je pense qu'il y en avait... alors, par rapport à la pratique de la céramique, c'est qu'en fait, on est artiste ou on n'est pas artiste. Voilà, c'est que le fait... c'est qu'en fait, un artiste, être artiste, créer des œuvres chouettes, c'est inné. Voilà, c'était ça ma croyance limitante. Et aujourd'hui, en fait, je suis persuadée que les meilleurs céramistes et les meilleurs tous, les meilleurs peintres, les meilleurs écrivains, c'est déjà ceux qui ont vraiment beaucoup travaillé au préalable. Il faut en fait avoir de l'inspiration, il faut avoir des idées, mais des idées toutes seules, ça ne suffit pas. Mmh. Il faut en fait, il faut travailler, avoir des bases, avoir des techniques pour après se donner les clés de les exploiter. De les exploiter comme on a envie de le faire. Si on n'a pas fait ce travail au préalable, on pourra pas aller très loin parce qu'on saura pas mettre en forme les idées qu'on avait. Donc pour moi ce serait la créativité et le fruit du travail.
Très intéressant, parce qu'effectivement je pense que c'est une croyance qui est très partagée.
Ouais, je pense que, mais c'est, et je pense que c'est vraiment une croyance très française. Mais le fait, en fait, de se dire, ben oui, en fait, il est artiste, il a reçu ce don à la naissance, ben non, non. Il y a des facilités, mais il y a beaucoup de travail derrière.
Et l'aspect créativité vient quand tu deviens bon dans la technique, tu penses?
Non, l'aspect créativité, je pense qu'il faut se laisser des plages de créativité. Je pense que la créativité, on peut l'avoir plus ou moins. Je pense que la créativité, c'est le fait de savoir observer les choses autour de soi. C'est le fait d'être assez curieux et de remarquer des petits détails. Voilà, par exemple, de se dire, ah ben ça, c'est pas forcément qu'un arbre. Ça, c'est peut-être un érable. C'est peut-être, voilà, c'est en fait, c'est de donner des spécificités à ce qu'on voit et de remarquer les détails du quotidien.
Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que tu vois, moi, par exemple, je me considère comme pas créatif. Tu vois, moi, je suis très scientifique, ingénieur, cartésien. Et dès que j'ai dessiné au fait de la musique, alors j'ai fait, tu vois, des loisirs, on va dire, créatifs. Mais à chaque fois, je reproduisais. J'ai jamais créé. Mais je pense que c'est effectivement ce que je me laisse pas à l'occasion de... Ouais.
Oui, je pense. Et oui, je pense que tout le monde a cette part de créativité où, tu vois, ou même le matin, en fait, se prendre... Tu déjeunes, tu... Tu vois, moi, le matin, quand je déjeune, je me prends un petit carnet et j'essaie de griffonner, tu sais, de faire des petits croquis le matin. Et c'est... voilà, je pense que c'est ce temps-là. C'est s'octroyer un tout petit peu de temps qui à regarder les choses différemment.
Hyper intéressant. Donc, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Donc, tu as un salarié, c'est ça, pour l'aspect location. Une alternante, tu gères des partenaires.
Alors aujourd'hui, ouais. Alors pour l'aspect location, c'est des prestataires.
Ok.
À chaque fois, c'est des prestataires, que ce soit voilà toutes les personnes qui travaillent pour nous, c'est des prestataires. Il n'y a pas encore de salariés parce que des salariés ça coûte cher. C'est voilà, c'est encore autre chose. Donc oui, j'ai cet aspect chef d'entreprise et c'est pas inné pour moi. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Gérer les comptes, gérer tout.
Ah ben, il y a beaucoup de travail pour lequel qui correspond pas à son cœur d'activité, pour lequel on n'est pas rémunéré, qui prend beaucoup de temps et de charge mentale. Hein.
C'est ça, il y a des choses dans lesquelles on est bon, des choses qui nous coûtent plus, mais qu'il faut faire. Et aujourd'hui, oui, ça me prend du temps. En gros, ça me prend, ça me prend. Dans l'idéal, je découpe mes journées, je m'octroie le matin sur tout ce qui est gestion du bol et l'après-midi à l'atelier. J'arrive pas toujours à le faire, mais j'essaie.
Donc, tu arrives encore à faire... Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tout cet aspect-là. Mais est-ce que tu continues à faire des pièces, à les vendre, à créer ?
Alors là, en septembre, j'ai fait des pièces pour un resto à côté. Et là, depuis septembre, là, je me suis encore mis entre parenthèses parce que je prépare une formation sur les émaux. Donc, tous les après-midi, en fait, je vais à l'atelier faire des tuiles, faire des tests d'émail. Donc, les émaux, en fait, c'est toute cette partie colorée qu'on voit sur les pièces qui ressemble à du verre et qui donne, en fait, toute, toute la finition à ta pièce, quoi. Et donc là, je vais terminer cette partie, cette formation qui, donc là, j'espère aller avoir terminé ça en janvier. Et suite à ça, je me remettrai sur la réalisation de mes pièces.
Ok, donc là, tu prends des commandes de temps en temps ou tu crées...
Alors, je prends des commandes de resto. Voilà, ça, c'est différent. C'est un travail déjà en local. C'est un travail qui est valorisant, les restaurants, parce que c'est aussi du bouche à oreille. Et sinon, en fait, pour les pièces, c'est des pièces que je mets sur mon site. Et je propose les pièces et après, les gens peuvent acheter.
Ok. Et alors, du coup, toi, tu vis de ta passion aujourd'hui, mais quelle est la différence entre exercer sa passion comme un hobby et vivre de sa passion ?
Alors, vivre de sa passion, je pense qu'il faut quand même se dire qu'il y a des bons et des mauvais côtés. D'accord ? Le hobby, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas y passer autant de temps qu'on veut, mais il n'y a pas la dimension financière qui vient s'intercaler là-dedans. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Après, faut savoir que vivre de sa passion comme céramiste, justement, c'est des questions que je reçois souvent. Si vivre de sa passion comme céramiste qui vend ses pièces, c'est très difficile rien que le fait d'avoir un SMIC. Voilà, c'est difficile d'en vivre. Il y a quand même beaucoup de charges. Et là, avec l'augmentation de l'électricité, je sais pas comment les choses vont tourner.
Oui, parce qu'il faut un four qui consomme beaucoup.
Il faut des fours qui consomment beaucoup, sinon il faut passer sur du gaz, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Et donc moi, je vis de ma passion parce que je vis aussi du bol, je vis des cours, et je vis aussi de ma partie vente de pièces. Mais si c'est les deux qui se cumulent, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie chef d'entreprise qui n'est pas forcément ma passion, mais qui me permet de vivre de céramique. Donc oui, vivre de sa passion, voilà, je pense que si on peut faire, je sais plus ce que c'était cette citation, mais c'était oui, fais de ta passion ton travail et tu n'auras jamais l'impression de travailler dans ta vie. Je ne suis pas convaincue de ça, parce que une fois qu'on a fait de sa passion son travail, il y a d'autres contraintes qui arrivent par-dessus.
Exactement, non, c'est pour ça que je voulais en venir ici, parce que c'est souvent ce qu'on entend, que c'est pas forcément l'idéal non plus de vivre de sa passion, que ça peut dégoûter de sa passion. Et je pense qu'il faut aimer du coup l'aspect du deuxième travail qui est celui de chef d'entreprise.
Et il faut être prêt, en fait, avant de faire la bascule, il faut avoir été... je pense qu'il faut passer quelques temps chez un potier et voir comment vraiment se passent ses journées. Voilà, voir les mauvais côtés, recycler la terre, travailler... Tu vois, travailler quand il fait froid, c'est moins agréable que quand il fait super chaud. Tu vas nettoyer l'atelier, tu vas être sale tous les jours. Tu vois, c'est pas ghost en permanence. Hein, tu vois, on n'est pas très glamour. On n'est pas très glamour tout le temps. Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment cerner tout et limite faire une petite immersion quelque part pour avant de prendre la décision de se lancer là-dedans.
Top. Est-ce que tu as eu des rencontres déterminantes dans ce parcours ?
Non.
Toute seule, quoi.
Non, pas toute seule. Mais on va dire que
C'est peut-être plusieurs rencontres qu'une déterminante, c'est ça?
Ouais, après, moi je dirais que vraiment dans mon parcours, mes proches, tu vois, Julien qui a monté aussi le bol avec moi et qui m'a aidé sur toute cette partie, off, quoi, en fait, m'ont énormément aidé. J'ai mes amis qui m'ont soutenue, tu vois, et qui sont toujours là. Justement, mon ami là qui m'a envoyé un petit mot hier pour me dire que ça fait 2 ans et qu'il y avait le café poterie. Tu vois, ça a été hyper important. Il y a eu, Laetitia, une aventurière qui avait fait l'aventure poterie, qui travaille dans la com et qui est venue s'enterrer sur Agen, qui a fait l'aventure poterie, avec qui on a créé pas mal de liens d'amitié et qui gère aujourd'hui les stages. C'est elle qui anime les stages, donc ça a été quand même une super rencontre. Après, il y a eu aussi toutes les personnes à qui je donnais des cours en présentiel, tu vois, et avec qui je garde contact, et ça m'a fait un super chouette réseau sur Agen. Après, j'ai eu beaucoup de discussions très, très intéressantes avec les céramistes, mais pour moi, en fait, ceux qui m'ont aidé, c'est vraiment mon entourage, quoi. C'est mon entourage, mes amis, tu vois, mon socle, tu vois, vraiment mon socle, mes enfants. Et, c'est ça qui me permet aussi de me détacher, de, tu vois, des avis, des réseaux sociaux et de toute cette fausseté qu'il peut y avoir à quelque part autour d'Internet, quoi.
Par exemple?
Après cette fausseté, tu vois, après, il peut y avoir des remarques, c'est toutes les remarques que tu peux avoir dans les groupes, quelquefois Facebook, et tu vois, qui sont, tu vois, je trouve un peu malsain, qui vont justement te dire oui, comment est-ce qu'on peut apprendre la poterie sur Internet, non mais vraiment vous vous prenez pour qui, non mais au moins est-ce que vous avez passé votre CAP, voilà toutes ces choses que je pourrais mal prendre, ou même quelquefois je sais pas, des remarques des gens en fait qui t'envoient des remarques sur le blog pour te dire ah mais vous recyclez les émaux, mais vous vous prenez pour qui, allez faire des stages auprès de vieux potiers, vous verrez comment ça se passe. Enfin, peut-être petites réflexions, je pense, qui me passent au-dessus parce qu'aujourd'hui c'est pas ma priorité.
C'est important. Sinon on se laisse bouffer, hein.
Oui, c'est ça. Et puis après, même
c'est pas facile, hein.
Non, c'est pas facile. Mais tu vois, comme je te dis, moi j'ai cette chance et j'aime pas du. Et comme je te le disais avant de commencer, j'aime pas parler de moi, donc je me mets pas trop en avant. Et même chose, les gens qui m'aiment bien et qui me font des compliments et tout ça, même chose, j'arrive à prendre des distances. Ça, en fait, la popularité me fait peur, donc je prends plus de distance que nécessaire avec le tout.
Je vois. Tu nous as parlé un peu de routine où le matin, l'après-midi, c'était calibré, que dans ton petit déjeuner, tu dessines. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça?
En fait, j'essaie de cadrer le plus possible tout parce que je suis très désorganisée. Je suis pas une fille organisée, donc là, je me suis mis, depuis septembre, j'utilise Notion. Notion, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Voilà, mais ça me permet en fait de calibrer tout. Tu vois, par exemple, les posts sur Instagram, tout est calibré. Tu vois, j'ai un thème par jour. Comme ça permet en fait de préparer le tout à l'avance et de pas être pris au dépourvu, et que ça enlève de la charge mentale.
Ouais.
Les semaines, en plus maintenant qu'il y a Léa, je les prépare le week-end pour que ce soit bien cadré dans la semaine.
Est-ce que tu as du contenu spécifique à partager qui t'aide, toi, ou qui t'inspire?
Alors, j'ai pas mal de livres qui m'ont aidé. J'aime bien lire. Donc, il y a un livre qui s'appelle, qui était Comme par magie, d'Elisabeth Gilbert. Okay. Et justement, c'est lui, c'est un de ces livres qui permet de dédramatiser le fait de commencer petit. et de travailler à côté et de vivre de sa créativité d'un autre côté. Donc ça, c'est un livre qui m'a fait pas mal changer ma vision des choses. Il y a aussi un autre livre qui m'a poussé à apprendre, à m'écouter, quoi, à sortir des sentiers battus. C'était Terre des hommes de Saint-Exupéry.
Ok, ouais.
Où en fait, il parle de toutes ces personnes qui sont endormies et qui pourraient avoir tellement de choses à partager et tellement de choses à faire sortir d'elles, mais qu'on oublie souvent. Et ensuite, après, il y a énormément de livres niveau céramique. Mais bon, ça, je ne vais pas te le détailler ici. Hein, je ne pense pas que ça intéressera tout le monde. Et voilà, ça, c'est deux romans qui m'ont pas mal aidé.
Top. Là, ce serait quoi ton rêve maintenant, si on parle de rêve?
Alors, mon rêve aujourd'hui, ce serait d'arriver à trouver une solution pour gérer mon temps. Prendre plus de temps pour peut-être pour faire mes pièces et ne pas grignoter dessus comme je le fais souvent. Ce serait que le bol continue à grandir, que finalement que je puisse prendre quelques notes qui m'aident dans toute cette partie communication pour m'en délester.
Ouais.
Et après, ce serait faire un grand voyage au Japon de plusieurs mois.
Waouh, trop bien. Ouais, ça serait cool. Génial. Alors, sur l'aspect organisation, tu vois, moi, il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé qui s'appelle Virginie, que j'avais interviewé dans le podcast d'ailleurs. Tu pourras la retrouver.
Ah, je pourrais écouter, ouais.
Ouais, tu pourras écouter. Et justement, Comment ?
C'était quoi comme épisode ? C'était quel épisode ?
Je sais plus te le dire, mais il s'appelle Virginie Hérault, en tout cas. C'est son nom. Et elle m'avait accompagné en individuel, mais elle fait aussi, elle a lancé une formation que j'ai testée et qui est très bien, justement là-dessus, avec un accompagnement aussi en visio, donc top.
Qu'est-ce que t'avais appris pour t'organiser?
Comment? Je crois que la connexion est moins bonne là tout à l'heure. Attends, peut-être qu'on peut essayer d'enlever la caméra. Attends, je vais enlever la caméra. Hop, comme ça, on aura une meilleure connexion. Pardon, tu disais?
Et qu'est-ce que t'avais partagé comme clé pour t'organiser?
Ouais, en fait, c'est très intéressant parce que moi, je pensais être organisé, mais en fait, j'étais juste efficace. Il y a une vraie différence, je pense. Et les clés, c'était plus de déjà mettre des moments, comment, je sais plus comment elle l'appelle, mais des moments où, en gros, tu ne peux pas, enfin, tu dois pas travailler à ce moment-là, quoi. C'est vraiment des zones de non-droit, si tu veux, si on peut dire.
D'accord.
Et c'était partir de là pour après construire quelque chose, mais c'était vraiment pas un énième outil magique, pas un énième système d'organisation. Vraiment, dans l'accompagnement, de te faire te rendre compte de qu'est-ce qui est important pour toi, comment bien le planifier et comment garder des routines de vérification que tu respectes bien ce que tu t'étais engagé à respecter, en fait. C'est, disons que pour moi, c'était encadrer plus pour être plus libre au final. Je sais pas si c'est clair.
Ouais, mais je suis d'accord, hein, parce que si on s'encadre pas assez, au final, on grignote, voilà, toujours sur nos temps libres ou sur les choses qu'on aime faire et qui nous paraissent peut-être moins importantes.
Ouais.
Mais oui, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on est organisé.
Exactement. Ouais, ouais. Alors certains pensent que justement, quand on a un planning un peu de militaire, on n'est pas heureux. Mais au contraire, moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir avoir des espaces libres où justement, je peux vraiment rien faire.
Ouais, j'écouterai ton podcast.
Ouais, je t'invite. Super. Si tu devais glisser un mot à l'oreille du coup de Sarah au moment où elle hésite peut-être à quitter son travail, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
Je lui dirais, fais-toi confiance et lâche, évite de vouloir tout maîtriser.
Ah, intéressant ça. Intéressant. Et moi, j'aime bien toujours finir sur une citation, si jamais t'en as une qui te parle.
Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver comme citation? J'en ai pas mal qui me sont assez chères. Alors, il y en avait une Il y en avait une, il y en a une que j'ai dû te, que j'ai lu dans un livre récemment. Je vais prendre celle-ci. C'était on a dû te dire qu'il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre. C'est la plus grande réussite au monde.
Ah, voilà. Très très puissant.
Je trouve que voilà, c'est une des citations que je m'étais notée voilà, pour y repenser régulièrement, parce que ben, notamment quand on est entrepreneur, on a toujours cette quête de la réussite et de toujours plus permanente.
C'est vrai.
On oublie les moments pour profiter de soi et des êtres qui sont proches, quoi.
C'est vrai. Merci beaucoup pour ces partages. C'était un très bon moment avec toi, Sarah.
Ben, merci pour l'invitation. C'était
avec grand plaisir. Et donc, je mettrai en référence l'Instagram et le site internet pour que les gens puissent te retrouver et qu'ils n'hésitent pas à passer le pas.
Eh ben, merci beaucoup. Merci pour toi, Alexis. Bonne continuation. J'irai écouter ton podcast.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ton écoute et bravo d'être resté jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, écoute, je t'invite à le partager autour de toi. Pourquoi pas même mettre une super note sur l'appli de podcast sur laquelle tu m'as écouté, un gentil commentaire, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, de parler de jolis rêves et surtout de passage à l'action.